Vous écoutez RTL. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
Dans un instant, on retrouve Yad Lavoie avec vous, Steven Bellery, et une sacrée voix. Hein.
Celle de Patrick Fiori.
Un livre par jour, Bernard Lehu, et un de vos coups de cœur de l'année aujourd'hui.
Millésime 54, un roman plein de tanins d'Antoine Lorrain.
De nouveaux secrets de producteurs dans les coulisses de quel film, Stéphane Boutsock?
Il va vous falloir un petit peu de souffle, je vous emmène voir les femmes du 6e étage.
Bon, ça vaut le coup. Et nous irons faire un tour à Aix-en-Provence avec vous, Sophie Orange.
Pour découvrir, redécouvrir Nicolas de Staël.
Laissez-vous tenter tout l'été avec Anthony Martin sur RTL.
Musique, il y a de la voix, et donc aujourd'hui les confidences de Patrick Fiori, Steven.
Ouais, le chanteur corse a publié en septembre dernier Promesse, son 10e album, Patrick Fiori. Il faisait un pas de côté, il a épicé sa musique de boucles électro, il a ajouté un soupçon d'urbain, il a même convié le rappeur star Soprano pour un duo sur des paroles signées Jean-Jacques Goldman. Il y a de la voix aujourd'hui avec Patrick Fiori.
Il y a un souvenir très précis. À la base, moi je suis pas fait pour être chanteur, par contre mon frère est fait pour être musicien, guitariste. Mon frère s'appelle Jacques, pour la petite histoire. Frère Jacques, mon oncle était ébéniste, luthier, il avait fabriqué une guitare de fortune. Et il commence à jouer et on était dans la chambre tous les deux. Personne à la maison, les parents travaillaient, mes sœurs n'étaient pas là.
Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir.
Tente de jouer une chanson de Francis Cabrel et puis il chante. Et puis il me dit chante avec moi. Et il essaie de chanter. Je dis mais enfin Jacques, je sais pas chanter. Et je chante avec lui. Immédiatement, il sortit de ma voix des notes précises, juste avec le vibrato, un truc comme si je respirais quoi. Donc ça m'a choqué. Je me suis arrêté net, j'ai fait un blocage. Je me suis couché le soir avec une grande réflexion en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je vais avoir ouais, entre 9 et 10 ans par là.
Il n'y a pas de mots pour le dire.
Et le lendemain, j'ai rappelé mon frère, j'ai dit voilà, essaie d'apprendre une chanson de Gérard Lenormand, là, puis on commence à chanter du Gérard Lenormand, je fonds en larmes. Je m'écroule parce que je comprends. C'est terrifiant d'avoir autant d'émotions à ce moment-là. J'ai commencé à chanter devant mon premier public, ma famille, donc commencé à acheter du Brel, du Piaf, Aznavour. Et... Et voilà, ça a commencé à être mes premiers maîtres. Et puis ensuite, ben, aucun travail sur la voix, pas du tout de prof de chant. J'ai doucement commencé à me fabriquer mon petit jardin secret, aller chanter pour des copains, des copines, des anniversaires, un petit mariage à droite, une petite bar mitzvah à gauche.
Et peut-être...
En fait, c'était le plaisir de chanter, quoi. Ça me procurait vraiment des sensations de plaisir, de joie. C'était du bonheur. Et puis, c'était aussi un échappatoire pour y glisser un peu de tristesse, un peu de douleur. Ça devenait ma maison, même si j'étais encore chez mes parents. Ça devenait ma maison. J'avais mon endroit à moi, quoi. Là où je pouvais habiter, où je pouvais y mettre mes mots et mes émotions. Et je l'ai dit à mes parents. J'ai dit, voilà, j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. J'ai envie de donner du plaisir aux gens, d'aller chanter. À 13 ans, je suis à l'Opéra de Marseille. Et je me dis à ce moment-là, je vais devenir chanteur.
Comment vous définiriez votre voix?
Ah, pour moi, elle est insupportable, comme un chant du cœur, en fait. Aujourd'hui, à 7 heures, elle est encore sans faille. Si elle m'en donne de temps en temps, je peux lui pardonner. Je vous parle de ma voix comme si je parlais d'une personne, parce que c'est vraiment ça. Me définir comme un chanteur à voix, ça, je trouve ça ridicule. J'aime chanter.
Quatre mots sur un piano, ce qu'elle a laissé. Quatre, c'est autant de trop, je sais compter.
J'ai pu faire des choses avec ma voix, j'ai pu lui demander de ces choses de temps en temps encore, des notes, des trucs à taper, des trucs où on se dit c'est pas possible quoi. Eh ben, il suffit juste de lui envoyer l'information et puis elle me le rend. C'est ma meilleure amie, hein, cela dit.
Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils sont semés.
Ce sommeil, la bonne humeur, l'énergie des autres. Chanter, faire un concert, c'est l'équivalent de 3 déménagements faits par un déménageur. Mon père était déménageur, j'ai pu faire la comparaison, hein, du coup. C'est violent, en fait.
Est-ce que vous aimez votre voix ?
Je suis pas fou de ma voix, moi. Je ne l'aime pas vraiment, quoi. J'aime les sensations qu'elle me procure, mais le son de ma voix, je suis pas un grand, grand fan. Non. C'est grave, docteur ? Ben, merci pour cette consultation.
On est admiratif de sa voix. Chanter, faire un concert, c'est l'équivalent de 3 déménagements, nous dit Patrick Fiori. Et puis le récit du moment où il a découvert sa voix à l'âge de 9-10 ans, assez émouvant. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai fondu en larmes, c'était trop d'émotion.
Patrick Fiori reprend la route le 10 octobre à Toulouse. Il a des concerts programmés jusqu'à la fin de l'été. Et on le reverra à la rentrée dans la nouvelle saison de The Voice Kids sur TF1.
Il y a de la voix, revient lundi pour de nouvelles confidences. Merci Steven. Bernard Lehu, dans notre bibliothèque idéale de l'été aujourd'hui, un joli voyage dans le passé.
Et oui, par la magie de millésime 54, le dernier roman d'Antoine Lorrain, cet auteur a le don de raconter des histoires teintées de merveilleux. Ici, un soir de septembre 2017, quatre voisins ouvrent une bouteille de Beaujolais 1954. Le lendemain, ils se réveillent dans le Paris de 1954. Belle idée d'Antoine Lorrain.
Je l'ai pêché par une espèce de sentiment de nostalgie et d'envie. J'ai souvent feuilleté les albums, que ce soit de Doineau ou de Brassailles, avec toutes ces merveilleuses photos noires et blancs qui présentent un monde qui n'existe pas, que je n'ai pas connu et dans lequel je ne pourrais jamais aller. Donc j'avais envie d'y faire un tour le temps d'un livre.
Bal, petit bal, où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là.
Il y a plein de choses chouettes aujourd'hui, mais il y avait quand même dans ces années 50 une certaine douceur de vivre, un certain charme.
Et alors les quatre personnages de millésime 54, la jeune et jolie Magali, Julien, barman au Harris Bar, Hubert, sympathique fils de bonne famille, et Bob, touriste américain, découvrent le Paris. Des autobus à plateforme, des points sonores du métro, des tractions avant, des marchands de quatre saisons et des vitriers.
Et alors dans ce décor, que leur arrive-t-il ?
Alors de multiples aventures, cocasses quand on les regarde comme des extraterrestres avec leurs euros ou leurs smartphones, émouvantes quand Magali retrouve, en jeune mercière au grand cœur, la grand-mère qu'il élèvera plus tard, sans oublier les stars de l'époque qu'il croise, une affiche de rêve, Piaf, Prévert, Dali, Gabin.
Dis-moi plutôt combien tu m'en donnes.
35 millions. Dis, tu l'envoies un peu loin le bouchon, toi. 35 briques, il y en a pour 50.
C'était assez tentant dans cette balade dans l'année 54 et dans le Paris de 54 d'aller jusqu'au bout et de se dire mais pourquoi on les croiserait pas au détour d'une rue ou dans un restaurant ou dans un bar finalement puisqu'ils étaient tous là, pourquoi ne pas les faire apparaître?
Ben oui, pourquoi pas. Comment se terminera le voyage dans le passé de la belle équipe de millésime 54 d'Antoine Lorrain? Vous le découvrirez à l'issue d'un suspense souriant et poétique à déguster sans modération chez Flammarion.
C'est une formidable idée. Merci Bernard.
Merci messieurs. Ne bougez pas, cinéma juste après.
RTL Matin, il est 8h48.
Cet été, le soleil brille sur RTL. C'est l'été. Laissez-vous tenter sur RTL.
Et on parle cinéma, on vous retrouve Anthony Martin.
Et avec Stéphane Boutsock et ses secrets de producteur. Alors aujourd'hui, en compagnie du producteur Philippe Rousselet, dans les coulisses du tournage d'un film avec Fabrice Luchini, Les femmes du sixième étage de Philippe Le Guay, film sorti en 2011.
Et très joli succès pour cette comédie sociale qui se déroule dans le Paris très bourgeois de l'avant-mai 68. Jean-Louis et Suzanne Joubert vivent dans leur immeuble du 16e arrondissement et leur vie va basculer quand ils embauchent une nouvelle bonne, une jeune espagnole.
Si le téléphone sonne, vous répondez et vous veillez à bien noter le nom et le numéro de la personne.
Oui, madame Jouer.
Ah non, madame. Vous devez m'appeler madame. Et monsieur, monsieur. Et les enfants, monsieur Bertrand et monsieur Olivier. Ils rentrent de pension à la fin du mois et je compte sur vous pour que tout soit impeccable. Et puis pas de Javel à tire l'arigot, je ne veux pas vivre dans un hôpital. Vous m'avez bien comprise, Maria ?
Oui, madame.
Très bien, Maria. À tout à l'heure, merci.
Et à l'origine du film, comme bien souvent, il y a un roman et celui-ci n'a pas été écrit par n'importe qui, Philippe Rousselet.
Au départ, Les femmes du sixième, ça provient d'un livre qu'avait écrit François-Marie Bagnier.
qui s'appelait Les Femmes du Métropompe, dont on avait acheté les droits pour Philippe Leguet. Et puis, lorsqu'on a adapté le scénario, on l'a évidemment fait lire à François-Marie Bagnier, qui nous a dit, bah, écoutez, votre scénario ne ressemble absolument plus à mon livre, donc vous gardez les droits de votre scénario et je récupère les droits de mon livre. On l'avait trouvé à l'époque d'une grande élégance.
Maria, madame m'a dit qu'elle avait décidé de vous engager. Alors, comme tout travail mérite salaire, à notre ancienne bonne, nous donnions 250 francs. Et j'ai décidé qu'avec...
400 francs.
400 francs. Bah, vous déraisonnez, enfin. 250, c'est déjà très généreux. Je vous rappelle que vous n'avez aucune référence.
400 francs.
40 000 anciens francs, vous vous rendez compte ?
400 francs.
Dans l'adaptation du livre de Bagnier, c'était le fils des bourgeois qui montait s'installer au 6e étage. Et puis on a essayé de le monter financièrement, on n'a pas réussi. Et avec Philippe, on a décidé de remettre le scénario en écriture pour que ce soit finalement le rôle du père, donc celui qui a été tenu plus tard par Fabrice Lucchini, qui monte s'installer au 6e étage chez les Espagnols. Et là, évidemment, ça a tout changé.
Vous auriez la gentillesse de me montrer votre chambre ?
Non, elle n'est pas en ordre.
Soyez gentil, montrez-la-moi. Mais où est le lavabo ?
Il n'y en a pas.
Mais comment vous faites votre toilette ?
On met l'eau de robinet dans la bassine et après on la porte dans la chambre.
Mais c'est de l'eau froide.
Fabrice Lucchini et Carmen Maura qu'on vient d'entendre, oui. Aussi Sandrine Kiberlin qu'on a entendu dans l'extrait tout à l'heure. C'est le casting délicieux de ces femmes du 6e étage.
Oui, charmant comme le ton du film qui aborde en douceur les thèmes de la lutte des classes, de la place de la femme et des rêves inaboutis. Fabrice Lucchini, on en parlait, y est d'une sobriété, ma foi, pas si habituelle.
Fabrice est un vrai acteur, c'est plus qu'un comédien. C'est-à-dire qu'il incarne totalement son personnage. Donc il l'incarne tellement que... Parfois, il n'est pas toujours des plus respectueux du texte. Fabrice est quelqu'un qui demande une certaine souplesse par rapport aux emplacements de caméra, par rapport aux comédiens qui sont en face. Mais il est rare, parce que voilà, on a beaucoup de très bons comédiens, on a peu de grands acteurs.
Elles vivent dans des chambres minuscules, sans chauffage, ni eau courante.
Enfin, personne n'a été les chercher.
Enfin, elle se lève à 6h du matin, elle travaille toute la journée. Elle remonte à 11h du soir, ivre de fatigue, elle ne se plaint jamais. Elles sont contentes.
Enfin, mais d'ordinaire, tu ne te soucies ni des uns ni des autres. Et puis là, tout à coup, tu te passionnes pour des bonnes espagnoles.
Enfin, elles vivent au-dessus de nos têtes et puis on ne sait rien d'elles.
Et puis, c'est un bon vendeur. Pour nous, producteurs, on n'en a pas tant que ça.
Et figurez-vous que l'immeuble parisien du film n'a rien d'un décor construit pour le film. Il existe bel et bien, comme le raconte Philippe Rousselet.
On a eu de la chance, on a tourné dans un vrai immeuble. Pas tout à fait dans le 16e arrondissement, comme c'est le scénario initial, mais pas loin, dans le 8e arrondissement, juste à côté des Champs-Élysées, où on a trouvé un immeuble qu'on a pu totalement envahir, qui était vide. Où on a tourné tout le film. Ça nous a permis d'optimiser le coût de fabrication du film. Et ça a été très pratique.
Vous êtes propriétaire, vous faites ce que vous voulez. Mais je vais vous dire, chacun ses soins. Hein?
Mais je suis chez moi ici.
Non, le patron doit rester chez le patron. Ne se mélange pas avec les domestiques.
C'est la première fois que j'ai une chambre à moi. Enfant, j'étais en pension, service militaire après, et puis après mariage. Si vous saviez ce que je me sens libre.
De l'humour, de l'émotion, une vraie fibre sociale. Rendez visite aux femmes du 6e étage. Cet été, le film de Philippe Leguet à revoir en DVD chez M6 Vidéo.
Il n'y a pas d'ascenseur.
Non, ah non, non.
Il y a encore des immeubles vides dans le 8e arrondissement de la capitale.
Eh oui,
Merci Stéphane. Rendez-vous lundi pour de nouveaux secrets de producteurs. Et chaque vendredi de l'été, on découvre une exposition à ne pas rater avec vous, Sophie Orange. Un peintre à l'honneur aujourd'hui, Nicolas de Staël, en Provence. C'est une expo à voir dans les Bouches-du-Rhône à l'hôtel de Comont. D'Aix-en-Provence.
71 tableaux, 26 dessins qui vont vous éblouir. De Staël donne tout. Ces œuvres que vous allez admirer à l'hôtel de Comont ont été peintes pendant une période très précise, en fait, entre juillet 53 et octobre 54. Pour fuir la grisaille parisienne, De Staël s'installe dans le sud, sur les conseils de René Char. Il découvre Lagne, puis Ménerbe, et entre-temps, à l'été 53, il voyage en Sicile. Et surtout, surtout, alors qu'il est marié, il tombe amoureux d'une femme qui n'est pas libre. Relation passionnelle impossible qui va finir par le broyer, puisqu'il se suicide en mars 55. Une double vie qui apparaît par exemple dans ce tableau figure, décrit par Sophie Grépinet, passionnée et passionnante guide conférencière à l'hôtel de Comont.
On peut imaginer qu'il y a une femme. Certains historiens rien de l'art, il voit un deuxième personnage. Alors, c'est pas évident, mais on pourrait imaginer en effet que sur le côté droit, on voit une chevelure. Et c'est la période où Nicolas de Staël pense beaucoup à sa maîtresse. On pense toujours à ces deux femmes. C'est flou, finalement. C'est très mystérieux. On se pose beaucoup de questions, comme lui devait s'en poser beaucoup aussi quand il réalisait ses œuvres.
Et ce qui est très frappant également, c'est la couleur qui monte en puissance, progressivement rouge, jaune, bleu, d'une intensité inouïe. Vous découvrirez toute une série de paysages de Sicile. Le plus troublant, c'est que parfois le ciel devient marron, la campagne rouge. Une sorte d'inversion des couleurs, finalement, décryptée par l'un des fils de Nicolas de Staël, Gustave de Staël.
Il avait envie d'érégler les choses, de montrer que les choses étaient faites différemment. Et du coup, c'est pour ça qu'il se permet, finalement, de faire un ciel rouge ou un ciel vert. C'est une sorte de grand cataclysme. Il voulait montrer que la peinture pouvait être autre chose, quoi, pouvait dire autre chose. C'est pas de l'hallucination, c'est son propre esprit qui pouvait comme retourner le gant d'une question.
De Staël peint ses émotions, vous serez saisi un choc de couleurs, et quand vous approchez des tableaux, vous voyez qu'au fur et à mesure, eh bien, il s'allège.
Dans la première salle, on voit ce paysage où la matière est très épaisse. Il utilise la truelle, comme si c'était un maçon. On voit qu'il y a au moins un centimètre d'épaisseur de peinture. Et puis, au fur et à mesure, déjà, il va utiliser le pinceau. La peinture devient beaucoup plus fluide, contrairement à d'autres tableaux où il y a beaucoup de matière.
Au total, pendant ses 15 mois en Provence, de Staël a peint 254 tableaux. On est là vraiment à l'apothéose de sa carrière. Et au cours de sa carrière, extrêmement prolixe, Nicolas de Staël, plus de 1100 tableaux en un temps record, hein, puisqu'il se suicide à 41 ans en 1955. Certains tableaux partaient chez son galériste à peine sec. Pourtant, c'était pour aller aux États-Unis, un artiste impatient. Et vous, prenez tout de même le temps d'aller voir Nicolas de Staël à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Comment, c'est une expo magnifique.
Et c'est un autre bon millésime 54, si je vous ai bien suivi, référence au livre d'Antoine Lorrain dont on parlait tout à l'heure.
C'est drôle.
Merci Sophie. C'est le moment de notre pépite du jour. Le 11 octobre dernier, le dessinateur Sampé nous présentait au micro de Monique Younes la bande dessinée Le Petit Nicolas qui venait de sortir. 28 planches des années 50, encore une fois, signées Sampé et Goscinny et regroupées pour la première fois. Ça reste la seule expérience BD de Sampé car la bande dessinée, ce n'est pas son truc.
Je déteste ça. Rentrer dans des petites cases comme ça, je n'aime pas ça. Faut de l'espace.
Et c'est pour ça que ça a été la seule bande dessinée que
vous avez fait. Ça, j'ai pas eu envie de continuer.
Quel point commun, les enfants des années 50 et ceux d'aujourd'hui?
L'enfance, mon petit chat. Tiens, on se ressemble tous quand on a 12 ans.
Vous faisiez l'école buissonnière, vous?
Ça m'est arrivé une fois ou deux, oui. Un délice.
Les souvenirs d'enfance du dessinateur du petit Nicolas. Mon petit chat Jean-Jacques Sampé, à qui on souhaite un bon anniversaire parce qu'il a 86 ans aujourd'hui. Il est né un 17 août. Allez, musique. Notre jukebox nous sert à volonté des duos. Voici notre duo du jour.
Toi qui as voulu t'emprisonner, as-tu le droit de condamner celui qui cherche à s'évader? Chacun mène sa vie.
C'est un très beau duo, Michel Delpech et Laurent Voulzy, vous les avez reconnus réunis en 2006 dans le formidable album de duo de Delpech, White is White, Dylan is Dylan et Viva Donovan. Bon week-end, on vous dit à lundi.
Michel Delpech et Laurent Voulzy. On retrouvera une autre voix, bien évidemment, dans une minute, celle d'Aretha Franklin.